On enchaîne tout de suite avec un retour sur l'actualité scientifique avec Alice, biologiste qui a couru tout droit du campus de Mono pour nous faire un point sur les tomates. Rien à voir avec Twitter donc. Et plus particulièrement sur les tomates de grande surface, tristement célèbres pour leur fadeur. Bonjour Alice.
Bonjour.
Alerte au Mexique avec l'ouragan Patricia classé en catégorie 5, potentiellement catastrophique.
Une trop grande consommation de viande aggrave les risques de développer un cancer. Yes, science!
Alors, les tomates, on va commencer par s'éloigner un peu du sujet pour y mieux y revenir plus tard. Parmi les nombreuses interactions entre l'être humain et les autres espèces, il en est une qui est très surprenante, c'est la sélection artificielle. Par opposition à la sélection naturelle, processus selon lequel les caractéristiques des individus les plus aptes à se reproduire ont tendance à se répandre dans la population, la sélection artificielle désigne le fait que l'être humain sélectionne les individus qui l'intéressent le plus pour les faire se reproduire, et que leurs caractéristiques se répandent donc dans la population. Prenons l'exemple du maïs. L'ancêtre supposé du maïs, la théosinte, est une plante d'aspect très similaire au maïs que nous cultivons actuellement, mais dont le fruit est très différent. Cette plante a des graines foncées, à coque rigide, qui les rend peu visibles des oiseaux, et résistantes une fois au sol. Ces caractéristiques ont été sélectionnées naturellement au cours de l'évolution de la plante. Les graines les plus foncées et coriaces ayant plus de chances de survivre et de perpétuer leurs gènes que les autres. Maintenant, regardons le maïs cultivé de nos jours. Un autre mécanisme est à l'œuvre. L'humain est intervenu dans l'évolution de la plante. Pour l'humain, les graines sans coque sont très intéressantes, car plus simples à manger. Or, une graine sans coque perd avec elle sa teinte foncée. On se retrouve donc, in fine, avec une plante qui produit un tas de graines jaunes et fragiles. Alors que dans la nature, cette plante à graines très vulnérables ne pourrait sûrement pas se reproduire, et serait vouée à rapidement disparaître de l'histoire de l'espèce.
Du coup, si je me trompe pas, tu venais pas nous parler des tomates au départ ?
Le lien arrive. Le problème de la sélection par croisement, c'est qu'on ne peut pas vraiment tout faire en même temps. Il faut définir des priorités. Si la priorité d'un sélectionneur est d'avoir de très beaux fruits, faciles à vendre, alors c'est ce qu'il sélectionnera, parfois au détriment d'autres choses. Et donc, les tomates. Malheureusement, ce qui motive le plus souvent l'acheteur moyen en supermarché, ce n'est pas le goût, mais l'apparence. Ainsi, le sélectionneur moyen ne se base pas sur le critère goût pour choisir les plantes à reproduire. Dans ce cas, on dit que l'homme supprime la sélection de ce caractère, c'est-à-dire que les plants qui ont perdu les arômes ne seront pas moins aptes à se reproduire que les autres, et que progressivement, par hasard, on perd le goût de la tomate.
Par hasard, du coup ?
Oui, par hasard. Le goût de la tomate est généré par des molécules que notre langue et notre nez reconnaissent. Ces molécules sont codées par des fragments d'ADN dans les tomates. Cet ADN est présent dans chaque cellule de chaque tomate, plus précisément dans le noyau, bien au chaud, protégé de tout ce qui pourrait l'altérer. Le hic, c'est que l'ADN qu'on ne peut pas toucher, c'est de l'ADN qu'on ne peut pas lire. Il y a donc des moments où l'ADN va être manipulé. On va le dérouler un peu une fois de temps en temps. Par exemple, lorsque l'on veut traduire l'information qu'il contient. Et parfois, la machinerie moléculaire qui gère ce passage de l'ADN à des molécules exportables va faire des erreurs. Parfois, la machinerie qui copie entièrement l'ADN quand une cellule se divise fait aussi des erreurs. Ainsi, ces phénomènes, nommés mutations, pourront mener à la perte de certaines parties du génome. Dans la nature, une tomate qui a subi une mutation sur un gène de la saveur pourra se retrouver désavantagée et moins bien se reproduire. Dans les cultures, ce critère du goût a pu être négligé. On a supprimé la sélection qui maintient ses caractères dans les populations de tomates.
Et de quelles avancées tu viens nous parler en fait ? Enfin, tu nous as parlé de tomates moins fades ?
Oui, l'article dont je viens vous parler a été publié dans Nature ce mois-ci et présente une étude menée par des chercheurs de l'Académie des sciences agricoles de Shenzhen en Chine. Les auteurs ont cartographié les gènes responsables du goût chez 400 variétés de tomates. Ils ont en particulier identifié 13 molécules volatiles, donc odorantes, pour lesquelles les tomates modernes étaient déficientes.
Et du coup, cartographier les gènes, ça marche comment exactement ?
Ça fait à peine une dizaine d'années qu'on peut faire ce genre de choses. Ça vient du fait qu'on a appris à séquencer les génomes. Pour vous donner un ordre d'idée, le prix du séquençage par unité de longueur d'ADN a été divisé par près d'un million entre 2001 et aujourd'hui. On peut donc, de plus en plus facilement, dès qu'on découvre une nouvelle espèce par exemple, ou même un nouvel individu, séquencer son génome en entier, assez facilement. Les auteurs ont donc pu rechercher des positions sur le génome associées aux molécules d'intérêt. Ils ont également identifié quelles molécules avaient l'effet le plus significatif sur le goût perçu par les consommateurs. On peut ainsi espérer des fruits de plus en plus goûteux, que ce soit par sélection ou par génération d'OGM. Une bonne nouvelle, ça se discute.
Oui, ça se discute. Moi, ça me rappelle la chanson, je ne sais pas si vous connaissez, mais « Mange des tomates, mon amour, mange des tomates tous les jours, ça donne une bonne amine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, ça, c'est bon pour la santé. »
Pas moi, non.
Ah non, on n'a pas eu la même enfance, Maëlys.
Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Bon. Mais merci Alice, en tout cas, pour ce petit focus sur la tomate. Elle est sénatrice, prêteuse de voix, agrégée d'histoire, historienne défroquée et géographe en herbe. Elle était là il y a quelques minutes. Elle est toujours là parmi nous avec une revue de presse du jour. Rebonsoir Marie.
Rebonsoir Maëlys.